Domingo, domingo, catene, catene.
C'est pas du vent.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent.
Catene, 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 catene.
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est une véritable boîte à outils. En une quinzaine d'années, le programme des petites initiatives a accompagné la création et l'épanouissement de près de 250 projets de protection de la biodiversité en Afrique subsaharienne et au-delà. À chaque fois, ce sont de belles histoires. Nous vous emmènerons par exemple dans le sud-ouest du Cameroun voir comment les pêcheurs du lac Ossa participe à la protection des lamantins. Un peu plus au nord, près de la ville d'Oku, nous irons à la rencontre des apiculteurs qui ont réussi à obtenir une indication géographique protégée pour valoriser leur délicieux miel blanc. Au Congo-Brazzaville, c'est l'ONG Essi Congo qui protège les gorilles et les chimpanzés de la forêt du Mayombé qui s'est développée grâce à ce programme, à tel point que son directeur, qui sera notre invité, préside désormais l'Alliance pour la protection des grands singes au niveau de l'Afrique centrale. La bonne nouvelle, c'est que ces projets sont désormais accessibles à tous pour vous faire voyager ou vous inspirer grâce à un tout nouveau site internet. Nous allons vous donner envie d'aller l'explorer. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Paul Estève.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission au comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Vous gérez avec Nicolas Saloun le programme des petites initiatives. Alors, quelle est la philosophie de ce programme qui a été créé en 2007 ?
Effectivement, ce programme a maintenant 15 ans. Il est financé par le Fonds français pour l'environnement mondial, le FFM, et la Fondation MAVA. Et il est géré par le comité français de l'UICN. Et ce programme a pour objectif de soutenir la société civile africaine qui mène des activités de conservation de la nature et de développement local à travers des financements modestes de à peu près 30 000 euros pour des projets de 18 mois et à travers un autre volet très important et très structurant qui est le renforcement de capacité des ONG.
Et avec une philosophie particulière.
Oui, exactement. On accompagne ses partenaires dans le but de faire émerger la société civile pour qu'elle acquiert de la légitimité et de la crédibilité à travers ses actions de terrain et qu'elle puisse influencer le débat politique. Et bien sûr, la philosophie, c'est qu'elle est un ancrage territorial fort, qu'elle appartienne à un territoire et qu'elle engage les communautés locales dans ces logiques de conservation de la nature afin d'assurer la pérennité des activités entreprises.
Alors, je le disais, à peu près 250 projets ont été accompagnés dans plus de 30 pays. Alors, pour soutenir ces projets, il faut bien entendu des financements. Ils proviennent du Fonds français pour l'environnement mondial. Bonjour Constance Corbier-Bartaud.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes responsable des projets biodiversité au FFM. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler ce qu'est le Fonds français pour l'environnement mondial ?
Oui, alors rapidement, créé en 94, donc à la suite du premier sommet de la Terre à Rio, pour permettre à la France d'appuyer dans les pays en développement des projets en faveur de l'environnement, le FFM, donc Fonds français pour l'environnement mondial, se distingue toutefois des initiatives de financement public, voire privé, dans ce domaine par deux aspects qui sont un petit peu l'ADN du FFM. Le premier aspect, c'est que le FFM entend appuyer des projets qui concilient environnement et développement local. Et le deuxième aspect, c'est qu'il met en avant l'innovation. L'innovation, qu'elle soit institutionnelle, technique, sobre en technologie, enfin l'innovation, et donc effectivement les échanges d'expériences et la diffusion de ces innovations. La biodiversité, avec la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la désertification, est l'un des trois axes fondamentaux d'action du FFM.
Et alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de soutenir ce programme des petites initiatives que vous aimez bien, je le sais, parce qu'on en a parlé en préparant cette émission?
Oui, j'aime beaucoup le PPI. D'abord parce que on est de vieux compagnons. On l'appuie depuis les fonds baptismaux, là, depuis 15 ans. Il a même un petit frère, comme on dit aujourd'hui, ou une petite sœur, puisque le PPI appuyant les organisations de la société civile en Afrique du Nord, donc les quatre pays, Maroc, Tunisie, Algérie et même Libye, existent depuis 5 ou 6 ans maintenant. Et c'est un petit peu la réplique dans ces quatre pays-là. Donc, ça fait un petit moment qu'on est compagnon de route du PPI.
Le slogan du programme des petites initiatives, c'est « Protéger, participer et innover ». Alors, pour comprendre ce que cela signifie sur le terrain, je vous propose de nous rendre dans le sud-ouest du Cameroun à 1 heure de Douala, sur les rives du lac Ossa, près de la ville de Dizang. C'est l'un des endroits où vivent les lamantins d'Afrique de l'Ouest. Vous savez, ce sont ces gros mammifères herbivores à l'allure placide. Contrairement à leurs cousins de Floride, ils sont incapables de vivre dans de l'eau salée. Ils sont en voie de disparition. Et dans cet espace de lacs et de forêts de plus de 4000 hectares, où la pêche est la principale activité, l'ONG AMCO a décidé de s'installer pour préserver ces mammifères marins timides mais très attachants, avec l'aide justement des pêcheurs qui utilisent notamment leur téléphone portable. Voilà de l'innovation. Alice Milo s'est levée avant le soleil pour retrouver Rodrigue Ngafak, le chef du projet d'AMCO, aux abords du lac Ossa.
Là, ça va un peu glisser. Du coup, vraiment attention.
Donc là, on est en train de descendre un petit chemin de terre qui nous mène jusqu'au lac.
Ouais, on emprunte là le chemin principal, l'accès qui mène au bord. On appelle le bord de Mwembe.
Et là, c'est le petit matin, le jour vient à peine de se lever.
Le jour vient à peine de se lever parce que c'est le meilleur moment pour voir les lamantins. Donc, soit on y va très tôt le matin ou alors tard le soir.
Et pourquoi c'est le meilleur moment?
C'est le meilleur moment parce qu'à ce moment-ci, l'activité de pêche, elle est très faible. Donc les lamantins, comme ces animaux furtifs, du coup, ils n'aiment pas beaucoup les activités humaines. Donc très tôt le matin, comme ça, ils sortent pour manger ou bien pour jouer. Et aux alentours de midi, chacun se rend tranquille, se cacher dans son coin. Hop, attention.
Hop là.
Pour ne réapparaître que en tard la nuit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer notre sonar sur le bateau.
Et donc c'est lui qui va nous signaler s'il y a un lamantin qui passe sous notre bateau.
Ouais, c'est super difficile de le détecter à l'œil nu. C'est un mammifère marin qui vit essentiellement sous l'eau, mais en moyenne après 7 minutes, il faut qu'il vienne à la surface pour prendre sa bouffée d'air, puisqu'il respire par des poumons. C'est le seul moment où on a la chance de le voir sous l'eau. Et là, malheureusement, il n'y a qu'une partie de ses narines qui sortent de l'eau. Il ne sort jamais la tête entière de l'eau. Donc il fallait trouver un moyen qui nous permettait de détecter le lamantin bien qu'il soit sous l'eau. Donc on a dû contacter des gens qu'on connaît, surtout pour le lamantin de Floride, parce que cet équipement a beaucoup été utilisé là-bas. Donc on a voulu donc importer la méthode, c'est d'ailleurs la première fois qu'on le fait en Afrique. Donc là je pense qu'on est prêt pour embarquer.
Allez, tu montes par là? C'est magnifique, là on voit la brume sur le lac, le soleil qui est en train de se lever, qui est rougeoyant.
Ouais, c'est très beau, c'est un plaisir à chaque fois de travailler dans ce lac. C'est vraiment du plaisir, que du plaisir. Donc là, on vient d'arriver sur le Grand Lac. Ouais. L'idée donc de créer AMCO est partie du fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ici dans la réserve de faune du lac Ossa, que le lamantin il était menacé. On a commencé par faire des inventaires. Le premier inventaire qu'on a fait dans le lac Ossa, il était en 2010. Et puis 2 ans plus tard, en 2012, il était clair que l'abondance déterminée 2 ans plus tôt était fortement inférieure à l'abondance 2 ans plus tard. À l'origine, la population de lamantin d'abord n'est pas trop grande. Donc si elle décroît de manière impressionnante, elle va disparaître quasiment. Comme je l'ai dit tantôt, le lamantin, lui, n'a pas de prédateur naturel. Donc son premier et seul prédateur, c'est l'homme. On va se déplacer lentement à la rame. Ouais. Et là, on approche d'un filet. Un filet de pêche, bien sûr, qui est disposé complètement le long d'un canal, qui ferme complètement un canal.
Donc c'est un filet qui fait bien une vingtaine de mètres.
Un peu plus. Il y a des filets qui font plus de 200 mètres. Donc celui-ci, sa particularité, c'est qu'il ferme complètement un canal. Donc du coup, un lamantin, ce serait difficile pour lui de traverser. Et d'ailleurs, c'est l'une des principales menaces qui pèsent sur le lamantin ici, la prise accidentelle dans les filets de pêche. Quand bien même la pêche n'est pas intentionnelle, elles arrivent donc que les lamantins se font prendre de manière accidentelle. Et essentiellement, les jeunes lamantins. Pour un hameçon adulte, ça ne pose pas vraiment grand problème parce que lui, il est capable de déchirer le filet. Mais pour un veau, c'est quasiment impossible pour lui de traverser. Si sa mère ne lui donne pas un coup de main, c'est quasiment impossible pour lui de traverser. Et comme je l'ai dit tantôt, même si la pêche n'est pas intentionnelle, c'est l'un des principaux problèmes que rencontre le lamantin dans cette réserve.
Et il y a une autre technique de pêche qu'on voit bien là sur le lac. Autour de nous, il y a énormément de bambous en fait, qui sont plantés tout droit en fait, au milieu du lac. C'est quoi ça?
Ça, c'est ce qu'on appelle ici la technique du roseau. Puisque les poissons, naturellement, ils aiment vivre cachés, ils aiment vivre dans des trous. Donc quand ils viennent tranquillement se cacher à l'intérieur, ben, le pêcheur, lui, au petit matin, il vient, il soulève simplement son bambou, il n'a qu'à le secouer et le poisson, il est dehors. Il y en a énormément et c'est un vrai problème. Parce qu'il y a des canaux où les roseaux ont quasiment bloqué le canal et un lamantin qui se retrouve d'un côté ou de l'autre est incapable de migrer. Et c'est par exemple la période de reproduction, il ne pourra pas aller pour rencontrer son partenaire. Ça, c'est l'un des problèmes. Et le deuxième maintenant, c'est la dégradation de l'habitat. Lorsque les roseaux s'accumulent quelque part, il y a la vase qui se dépose, qui se sédimente au fur et à mesure et le lac diminue de profondeur. Or, tout le monde sait que le lamantin, c'est un animal massif. Il a besoin d'au moins 2 mètres de profondeur pour vivre. Donc, lorsque la profondeur diminue drastiquement, le lamantin il est obligé de changer de milieu. Donc, ça, c'est les 3 problèmes que rencontre le lamantin dans le lac. Donc là, on va traverser entièrement le Grand Lac. Se rendre dans le lac Média. Here we go. Donc là, nous allons accoster sur l'île de Warman avec une belle plage de sable sauvage, comme vous pouvez le voir. Ouais, c'est juste du bonheur en fait, de venir ici. Donc là, on va accoster dans 2-3 secondes. Donc là, à l'instant, on débarque sur l'île. Et là, il y a des pêcheurs. Donc, ce sont des personnes qui viennent ici pendant la journée pour se reposer et attendent la nuit pour pratiquer leur activité de pêche. Donc, on peut voir le feu de bois. Là, ils sont en train de faire la cuisine pour le déjeuner tout à l'heure.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame. Moi, je m'appelle monsieur André Ndam. Je pêche ici depuis près de 15 ans.
Comment vous, en tant que pêcheur, vous cohabitez sur le lac avec le lamantin?
Quand tu tends le filet, comme le filet qui est tendu là, s'il y a le poisson là, le lamantin vient manger, il détruit le filet. Parce qu'il va déchirer le filet. Parce qu'il est trop gros, il déchire le filet.
Mais ça arrive souvent que...
Oui, ça arrive souvent que le lamantin détruit ton filet.
Et les pêcheurs du lac, ça les met en colère, ça ou pas?
Oui, ils se mettent en colère, ils se mettent en colère. Quand le lamantin garde ton filet, un filet neuf que tu as acheté, bon, tu sais que le filet là, peut-être, ça peut t'aider pour la rentrée scolaire de tes enfants et que... Et tu trouves ton filet abîmé, ça, tu te mets en colère. Mais tu vas alors te mettre en colère contre qui? Ça énerve, bon, mais on patiente.
Est-ce que ça coûte combien un filet?
Autour de 30 000. Pour les filets en nylon, c'est 30 000. Vous êtes obligé d'avoir votre mal en patience. Vous ne pouvez rien faire.
Vous, en tant qu'ONG, face à quelqu'un qui vous dirait « Non mais attendez, moi il faut que je nourrisse mes enfants, je ne peux pas me permettre de moins pêcher qu'avant », qu'est-ce que vous lui répondez Parce que l'argument financier, c'est quand même un argument qui est difficile.
L'autre leitmotiv, c'est un lamantin vivant vaut mieux qu'un lamantin mort. Parce qu'un lamantin vivant, le touriste vient, il le regarde, il laisse de l'argent et il part. Le lamantin, lui, il reste. D'autres viendront le voir, ainsi de suite. Par contre, en mettant à mort un lamantin, ils ont de l'argent aujourd'hui, mais pas demain. Tout le temps, au moins une fois par semaine, des gens qui viennent de l'étranger, de l'Europe, des États-Unis, pour voir uniquement le lamantin. Et cela fait des rentrées d'argent énormes à tous les niveaux, des compagnies, des billets d'avion, des chambres d'hôtel qui payent. Et également le pêcheur, le piroguier, qui leur prend dans sa pirogue pour le ramener sur le lac. Lui aussi, ça leur permet d'avoir des revenus supplémentaires. L'autre avantage du lamantin pour le lac, c'est que les déjections de lamantin servent donc d'alimentation pour les poissons. Là où il y a les lamantins, il y a des poissons. Et là où il y a des poissons, il y a des pêcheurs.
C'est un cercle vertueux.
Ouais, c'est un cercle vertueux, comme vous dites.
Donc le lamantin est utile.
Le lamantin, c'est l'espèce qui stabilise carrément l'écosystème du lac ici. Donc sa disparition serait quasiment un désastre, à la fois pour le lac et également pour les pêcheurs. La solution que nous, on a proposée à la fois pour les filets, à la fois pour le lamantin et pour les hommes, c'est dans la délimitation des zones de non-pêche. On leur propose également de faire des périodes de repos, notamment les week-ends, de ne pas pêcher les week-ends, pour permettre également aussi aux poissons de se reproduire. On les conseillerait d'utiliser des filets de nylon qui ne peuvent pas nuire au lamantin, par exemple. Donc, on vient leur apporter des solutions, pas seulement pour le lamantin, pour qu'ils ne se sentent pas lésés, parce que le but de notre action, c'est qu'à la fois les êtres humains, mais aussi les lamantins, chacun puisse utiliser le lac sans nuire à l'autre.
Ici, on est au lycée de Dizangué. Là, ça fait déjà 2 ans qu'on est en étroite collaboration avec eux. Parce que l'année passée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dispensé les cours aux élèves pour les sensibiliser. C'est une autre cible, la préservation du lamantin. Et dans le cadre de cette activité, on a eu à faire des petites plaques au niveau des arbres avec des petits messages.
Donc, c'est les pancartes qu'on voit affichées sur les arbres dans la cour,
justement,
en fait.
Justement, c'est ça. Un peu comme celle-ci. Évitons de consommer des espèces rares et menacées comme le lamantin. Comme ça, ça reste imprégné dans l'esprit des élèves. De façon continuelle, ils ont toujours à l'esprit qu'il ne faut pas faire ceci, mais il faut plutôt faire cela en ce qui concerne notre environnement. Donc, je vais devoir passer dans toutes les salles de classe, faire 30 minutes de cours une fois par mois. La première expérience que j'ai eue quand j'ai fait ma toute première leçon, c'est que quand j'ai posé la question aux élèves de savoir qui connaît le lac Ossa, j'ai été un peu touchée de savoir que dans la salle de classe, il y avait certains élèves qui ne connaissaient pas le lac et pourtant ils vivent dans la ville. Du coup, on a pensé qu'il serait déjà bon de faire connaître à ces enfants-là leur environnement à travers des excursions. On défend mieux ce qu'on connaît que ce qu'on ne connaît pas.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Là, nous sommes partis du lac Ossa très tôt de bonne heure ce matin. Et là, il est 8h et nous sommes sur les berges de l'océan Atlantique. Et là, on approche de la mer. Vous pouvez voir la mer là qui vient mourir sous nos pieds, le sable fin.
Ici, on a quoi, à 50 km du lac Ossa?
Oui, ici nous sommes à environ 50 km du lac Ossa. Donc, je vous ai amené ici parce que, après 2 années de travail sur le lac Ossa auprès des lamantins, on s'est rendu compte que le manque de données ne touchait pas seulement les lamantins, mais également tous les mammifères marins qui se trouvent sur la côte du Cameroun. J'ai fait là allusion aux baleines et aux dauphins. Dans cette zone, on a un programme avec les pêcheurs qu'on a recrutés, formés et équipés d'une application mobile que Yamko a conçue. On leur donne des téléphones équipés de l'application mobile qui sont waterproof, donc ils résistent à l'eau. Puisque nous n'avons pas la possibilité d'être sur l'eau tous les jours, voilà, nous sommes rapprochés et avons convaincu des pêcheurs qui sont nos relais chaque jour, chaque moment, tous les jours sur l'eau et qui remontent nos informations à notre niveau.
Ils sont vos yeux sur l'océan en fait.
Justement, ils sont nos yeux chaque jour, chaque matin sur l'océan.
Alors là, on arrive près des pêcheurs.
Alors bonjour Félix,
bonjour.
Comment ça va?
Ah, ça va Rodrigue, et toi?
Ça va, ça
et
va.
Et le voyage, ça a été?
Tranquille, ça va, ah, ça va. Bonjour Fadaï.
Bonjour Monsieur Rodrigue.
Ça va?
Ah, ça va. Vous êtes un pêcheur de criby?
Oui, je suis un pêcheur de criby. Je m'appelle Mpinde Félix. Ici, nous travaillons dans des embarcations que vous voyez.
Des grandes pirogues. Hein.
Ah oui, c'est des grandes pirogues parce qu'il y a des filets de 7 km à 8.
Et alors vous faites partie du programme d'AMCO. Donc AMCO vous a donné un téléphone, c'est ça?
Ah oui, il est là. Donc c'est des téléphones qui a l'application Sirène. Et ça nous permet de filmer, d'enregistrer toutes les données que nous prenons dans la mer. Si par exemple je vois une tortue, la première des choses c'est de filmer.
Donc avec votre téléphone?
Avec mon téléphone. Ensuite vous entrez dans l'application Sirène. Il y a la date, il y a le temps, la localisation et l'espèce. Vous cherchez l'espèce que vous avez filmée tout à l'heure. Si c'est une tortue marine, par exemple, vous cliquez ici. C'est gagnant-gagnant. Moi, je donne des informations. Ça me permet d'apprendre aussi beaucoup de choses sur ces mammifères marins qu'avant d'intégrer ou de travailler en partenariat avec eux, je n'avais aucune idée dessus.
Donc, Félix et tous les autres pêcheurs de la côte vous envoient les données via cette application sur votre téléphone. Et ensuite, vous les recueillez sur votre serveur Internet, c'est ça?
Oui, toutes ces données sont centralisées dans notre serveur. Ça permet de savoir le nombre d'espèces, la diversité qui a été observée sur toute la côte du Cameroun, en temps réel en fait. Donc voilà, on s'est rendu compte que ces espèces-là, elles souffrent d'abord des prises accidentelles par des bateaux. Malgré les efforts que les services du MINFO font sur le terrain, il y a néanmoins du braconnage de ces espèces-là qui continue. Je fais allusion ici aux dauphins. Cette collecte de données, ce serait un argument à la disposition des décideurs de l'État du Cameroun pour prendre des mesures appropriées pour la conservation de ces espèces. Je pense que ce serait un outil pour le législateur déjà de faire progresser la loi, par exemple, mais également d'augmenter la surveillance de la mise en exécution de ces lois. Je fais allusion là, par exemple, à l'utilisation des filets, à l'utilisation des filets de pêche réglementaires, mais aussi à l'augmentation des patrouilles de surveillance de la part des personnels du ministère des Forêts et de la Faune pour s'assurer des mesures qui ont été prises sur le terrain.
C'est un argument de poids.
Oui, c'est important. C'est important de faire appliquer les règles qu'on s'est données. C'est quelque chose de très important.
Constance Corbier-Bartot, je rappelle que vous êtes responsable biodiversité au FEFEM, le Fonds français pour l'environnement mondial, qui finance ce programme des petites initiatives dont fait partie l'ONG AMCO, dont nous venons de découvrir le travail grâce à ce reportage de Alice Milo réalisé par François Porcheron. Et donc, on comprend bien à travers ce reportage, l'importance de l'innovation.
Oui, tout à fait. Ben, je pense que ce projet est un bon exemple, mais le PPI en fourmille. Les projets portés par ces ONG sont de véritables réservoirs d'innovation, avec l'idée aussi que ces innovations peuvent être échangées, comme on échange des bonnes pratiques entre pairs. Cette idée à la fois de promouvoir les innovations, d'encourager sur le terrain des territoires où le développement s'invente autrement, c'est quelque chose qui peut diffuser. Et on est très content de ce site pour le PPI, le site internet, qui permet peut-être de mieux savoir qu'il y a plein de choses qui se font et que c'est très, très fertile.
Oui, ce nouveau site internet qui vient d'être lancé. Paul Estève, je rappelle que vous êtes chargé de mission au comité français de l'UICN, que vous gérez donc ce programme des petites initiatives. L'un des critères pour accompagner des projets, c'est leur capacité à être répliqué. Et dans le cas d'AMCO, en effet, ça a bien marché.
Oui, tout à fait. Une des forces de ce programme et ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est la réplicabilité et le partage d'expériences entre ses pairs. Effectivement, les acteurs qui interviennent pour la conservation de la biodiversité en Afrique sont souvent des acteurs isolés. Donc, tout notre intérêt, c'est de les mettre en réseau, de les faire partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques, parce qu'il n'y a jamais de recette unique qui fonctionne sur la conservation de la nature, mais il faut que les solutions puissent être adaptées au contexte et à la problématique. Et donc, ce partage d'expériences permet d'inspirer d'autres acteurs. Et en effet, c'est le cas avec cette application qui a au départ été créée pour suivre les populations de lamantins ou de tortues marines, mais qui ensuite ont été développées au Nord Cameroun pour le suivi des éléphants, pour anticiper les conflits hommes-éléphants. Ils ont été aussi développés à l'est de la RDC, dans le lac Édouard, pour le suivi des pêcheries et le suivi des stocks halieutiques. Donc là, on met en lumière complètement ce partage d'expériences et des solutions concrètes et pratiques en faveur de la nature.
Nous restons au Cameroun avec un retour vers le milieu des années 70 avec Ekambi Briand, Aboki.
Aboki mon Jumba sanoué, mbana mola aboki mona e. Jumba sanoué, umba.
Abouki du Camerounais et Cambi brillant dans ses pas du vent sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous vous racontons de belles histoires aujourd'hui dans C'est pas du vent grâce au programme des petites initiatives gérées par l'Union internationale pour la conservation de la nature et financées par le Fonds français pour l'environnement mondial. Ce programme accompagne depuis 2007 des personnes formidables en Afrique subsaharienne et depuis plus récemment en Afrique du Nord, des personnes motivées pour protéger la biodiversité, pour réconcilier l'homme avec le vivant qui l'entoure et dont il fait partie, rappelons-le. Plus de 245 projets ont été soutenus dans 33 pays, comme celui qui a permis aux producteurs du délicieux miel d'Oku d'obtenir un label d'indication géographique protégée, un IGP. La ville d'Oku, c'est dans l'ouest du Cameroun, à 3000 mètres d'altitude, perchée sur les flancs de la montagne de Kilum Ijim. Le paysage est dessiné par des cultures en terrasse et des terres rocheuses et pelées qui rappellent l'origine volcanique de la montagne. C'est l'un des rares endroits au Cameroun où il fait moins de 10 degrés le matin. Mais si Oku est connu dans tout le Cameroun, c'est grâce à son miel blanc. Il a un goût exceptionnel, un peu citronné, je l'ai goûté, qui provient justement du climat et de la diversité des espèces d'arbres de la forêt, un écosystème que l'ONG Camjou essaye de sauvegarder depuis 2011. Alice Milo a rendez-vous avec Emmanuel Binui, son directeur.
This is where found in Oku. Nous
sommes ici à Oku, sur le mont Kilum Ijim, tout près de la forêt communautaire. On est ici sur l'un des points les plus élevés du pays, à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est la deuxième montagne la plus haute du Cameroun. Comme vous pouvez le voir, c'est un paysage rocheux, car la montagne est un ancien volcan.
Et donc là, effectivement, on voit bien que cette forêt, finalement, elle coiffe le sommet de la montagne, et en dessous commencent les champs. Le travail des champs a commencé, là d'ailleurs, on voit plein de gens qui sont en train de biner les champs. On est à quelques mètres des premières habitations hein, qui longent la forêt, on voit les toits des fermes qui sont vraiment pas loin. Oku, c'est un village qui est de combien d'habitants ?
Il y a 130 000 personnes qui vivent à Oku. Ce sont principalement des agriculteurs. Mais si on tient compte de ceux qui habitent à moins d'une journée de marche de la forêt, on peut compter plus de 200 000 personnes. Et donc il y a une forte pression, car à cause du manque de travail et de la pauvreté, tous ces gens dépendent de la forêt.
On y va ? On rentre dans cette forêt ?
Oui, on y va. On va entrer dans la forêt. D'ici deux minutes, nous serons à l'intérieur.
This forest to us is very special.
C'est une forêt vraiment spéciale parce que, comme vous pouvez le voir, quand on marche à l'intérieur, il y a des ruches en forme de cylindre comme celle-ci. Oui, parce que c'est vrai, je parle depuis tout à l'heure, mais je ne vous ai même pas encore dit ce qui rend cette forêt si spéciale. Eh bien, c'est le miel blanc de Oku. C'est un miel certifié indication géographique protégée. C'est d'ailleurs juste à partir de cet endroit que débute cette IGP. Si le miel qui est produit ici est blanc, c'est à cause de ces arbres que vous voyez là. Vous voyez celui-là qui est en train de fleurir ? Il s'appelle Schaeffler Mani. Et là aussi, il y a un autre Schaeffler Abyssinica. Et voilà, c'est donc grâce à ces deux arbres que les abeilles produisent le miel.
Les gens d'ici produisent du miel depuis très longtemps ?
Oui, la forêt a toujours été là, et l'apiculture n'est pas une activité nouvelle. Ils en produisent depuis très longtemps, avant même qu'ils ne soient vendus. Avant, les gens d'Oku allaient à Gambé avec leur miel. C'est une autre communauté où ils fabriquent essentiellement de l'huile de palme, et donc ils faisaient du troc.
Mais Emmanuel, quand vous êtes arrivé ici en 2011, si vous avez fondé Camjoui, l'ONG que vous présidez aujourd'hui, c'est parce que cette forêt était menacée.
Oui, on a découvert plein de problèmes. Le premier, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il n'y a que des grands arbres. Les petits étaient systématiquement coupés par les gens du coin qui les utilisent pour faire du bois de chauffe ou pour fabriquer des outils. Et les chèvres faisaient également beaucoup de dégâts. Mais le plus gros problème que nous ayons, ce sont les feux de brousse. Souvent, cela arrive parce que les apiculteurs ont besoin de faire de la fumée pour éloigner les abeilles et récolter le miel. Souvent, ils utilisent une méthode d'enfumage traditionnelle. Mais les étincelles tombent, ils ne les éteignent pas et ça déclenche des feux. Et du coup, tout brûle. La forêt, les ruches de l'apiculteur, mais aussi celles des autres. C'est une vraie catastrophe.
Alors on a quitté la forêt de Hoku, on est redescendu dans le village. Là on est en train de marcher au milieu des maisons. Quelle solution finalement, comment votre ONG Kamjoué a décidé de résoudre ce problème pour sauver la forêt ?
On a pensé qu'il fallait encourager les populations à pratiquer encore plus l'apiculture. Parce que quand les gens possèdent des ruches dans la forêt, ils font attention. Ils veulent récolter le miel et donc ils protègent et leurs ruches et la forêt. Donc il nous a paru important de former les habitants d'Oku pour qu'ils apprennent à construire leurs ruches et à pratiquer correctement l'apiculture. Et donc là, justement, on va aller voir ensemble comment on construit une ruche.
Donc c'est vous, monsieur, le constructeur de ruches ?
Yes.
Oui, c'est moi.
Vous êtes entouré de lanières de bambou et vous commencez déjà à travailler à construire la ruche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est votre technique ?
J'utilise du bambou de raffia ou du bambou de Chine, car ce sont les matériaux qui permettent le plus facilement aux abeilles de fabriquer leur cire. Si les abeilles manquent de fleurs dans la forêt, notamment pendant la saison des pluies, elles peuvent se nourrir du bambou.
Vous avez une grande lanière en bois souple et vous êtes en train d'enfiler les bambous comme une tresse, en fait. Et ça doit former ensuite un cylindre, c'est ça ?
Oui, j'ai appris à construire ces ruches traditionnelles en observant mon père et mon grand-père depuis que je suis gamin. La dernière fois qu'il y a eu un feu de brousse, j'ai perdu 15 ruches avec les abeilles à l'intérieur. C'est une véritable perte économique, car ici on gagne notre vie grâce au miel. Mais depuis que l'ONG Kamjoué est arrivée, j'ai changé mes pratiques. Avant, quand on partait en forêt récolter le miel dans nos ruches, on faisait du feu sur place. Mais maintenant, on fabrique les enfumeuses à la maison et on part avec au moins 5 litres d'eau. Il faut aussi penser à retirer la paille sèche qui recouvre la ruche quand on enfume. Et après la récolte, on prend le temps de bien éteindre nos enfumeuses. Grâce à la sensibilisation de Kamjoué, on a radicalement réduit le nombre de feux de brousse à Hoku. Avant, quand il y avait des feux de brousse, ça tuait toutes les petites fleurs. On pouvait être sûr que ça allait être une très mauvaise année. Alors que maintenant, on a des fleurs à tout moment.
Donc Yengo vient de terminer de construire sa ruche. Une fois que la ruche est terminée et construite, comment ça se passe ensuite pour coloniser les ruches ?
En général, la colonisation ne se fait pas en région froide, c'est-à-dire vers la forêt. Donc après avoir construit la ruche, elle est transportée dans une région chaude. En bas dans la vallée, donc, les ruches sont colonisées là-bas, c'est aux environ 15 km d'ici. Et c'est là-bas où il y a beaucoup d'abeilles. Les abeilles entrent avec une ruche déjà, c'est leur maison. Et ils sont en mesure de construire et pouvoir garder leur nourriture qui est le miel. Et après ce temps-là, l'apiculteur va porter sa ruche d'abeilles. Et il va les amener dans la forêt où il va les placer. Et ça sera un site permanent. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes chanceux puisque Yengo, qu'on a vu tout à l'heure ce matin, construit la ruche pour nous. Il va transporter la sienne dans la forêt qu'il a déjà fait coloniser. Et je pense qu'on va monter avec lui.
Ah, bah le voilà. Ouais. Yengo,
Combien de ruches vous avez déjà placées comme ça dans la forêt, dans la montagne?
Jusqu'à maintenant, j'en ai déposé 14.
Est-ce que c'est un moment de votre travail d'apiculteur que vous aimez particulièrement?
C'est l'un de mes moments favoris. Quand je transporte mes abeilles dans la forêt, je me dis que très bientôt, j'aurai une récolte. Je souris d'avance à ce qui m'attend.
Yengo, vous savez combien elle pèse, la ruche que vous avez sur la tête, là?
Elle doit peser environ 25 kilos. Mais quand les abeilles se reproduisent, la ruche peut peser beaucoup plus lourd. Il faut être très prudent quand on les transporte, car si on les secoue trop, la cire qui est à l'intérieur risque de se casser, et je pourrais perdre les petits qui sont dedans.
Là, la ruche de Yango, elle est au milieu de la forêt, au milieu de toutes les autres ruches. Il y a énormément de ruches autour de nous. Comment peut-il être sûr que personne ne va lui voler son miel?
Je pense qu'à Oku, l'apiculture en général, c'est une activité sacrée et il n'y a pas de vol de miel dans la forêt. Mais l'histoire a montré que chaque personne dans la forêt, soit dans la tribu Oku ou dans la tribu Kom, lorsqu'ils volent du miel dans la forêt, il y a toujours des maladies qui attaquent ces voleurs de miel.
De la sorcellerie?
De la sorcellerie, un style de sorcellerie. Donc. Mais aussi, chaque utilisateur de forêt, s'il est en forêt aussi et qu'il est beaucoup fatigué et il a faim et il ne trouve pas quoi manger, s'il retire un morceau de cire d'abeille dans la ruche de quelqu'un, ça, ce n'est pas du vol. C'est une personne qui est affamée. Et très rarement, à Oku, tu peux entendre parler que quelqu'un a ouvert la ruche d'une personne et récolté. Très rarement. Mais aussi, comme je disais tantôt, ceux qui ont fait cela ont fini très mal.
Quel est l'intérêt d'avoir fondé des coopératives en fait?
Beaucoup de gens fabriquent du miel et sans la coopérative, ils ne seraient pas transformés correctement. Ils risquent de le goûter avec une passoire sale ou de le conserver dans un seau sale. Alors qu'avec la coopérative, ils sont sûrs de la qualité.
En quoi c'est un miel pas comme les autres, d'après vous, le miel blanc de Oku?
Eh bien, je vous invite à regarder ce miel. Regardez comme il est beau. La couleur est incroyable et l'odeur qui s'en dégage est si puissante. Il me fait saliver avant même que je le goûte. Et quand vous le mettez dans votre bouche, il a ce goût de fleurs un peu fumées et cette texture crémeuse. Vous voyez, si je suis une personne dynamique et en pleine forme, c'est parce que je mange ce miel tous les soirs. Et je m'endors à la minute où je m'allonge sur mon lit, jusqu'au matin. Rien ne me réveille. Et quand je me lève le matin, je suis comme régénéré. Et ce miel a aussi des propriétés médicinales. Si vous avez mal au ventre ou à la tête, si vous êtes constipé, ça soigne aussi le stress ou les faiblesses sexuelles. Ça vous rend plus fort et vous n'aurez jamais de problème.
Il est vendu où ce miel ensuite?
They sell it in Yaoundé, they sell it in Douala, they sell it in Bamenda.
Il est vendu à Yaoundé, à Douala, à Bamenda, à Kumba. C'est une très grande activité génératrice de revenus pour les gens d'ici. On vend le litre à 4000 francs CFA, soit environ 6 euros. Ça permet aux gens d'envoyer leurs enfants à l'école, d'aller à l'hôpital s'ils sont malades, grâce à l'argent du miel. Un jour, il y a un apiculteur dans un village non loin d'ici qui nous a dit « Ma maison, c'est grâce au miel. L'école de mes enfants, c'est grâce au miel. Et la dot de ma femme, c'est grâce au miel. »
La meilleure façon d'impliquer les gens dans la protection de la nature, c'est qu'ils y trouvent un intérêt financier.
Oui, et là, la relation est très claire entre l'apiculture, la préservation de la nature et les affaires. Le miel est un excellent moyen de préserver la forêt de Kilomijim, de lutter contre la pauvreté, de raviver l'économie et de lutter contre le changement climatique.
Mwana yango kitoko mingi, diyo na miso,
nalingeye mingi, iyo na zolo, nalingeye mingi, iyo na milo.
Paul Estève, je rappelle que vous êtes chargé de mission au comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Vous gérez le programme des petites initiatives qui a soutenu cette ONG, Camjou, qui fait partie des histoires à succès de ce programme.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un exemple typique d'un écosystème alors assez particulier, hein, parce que les forêts montagneuses au Cameroun, il y en a très peu, mais elles sont très riches en biodiversité, notamment en termes ornithologiques ou avec le Prunus africana, mais qui sont effectivement très, très menacées. Et effectivement, le développement de cette filière apicole, qui est un succès, puisque les bénéficiaires se sont regroupés en coopérative et fournit de très bons résultats au niveau économique pour les populations, mais surtout avec la baisse des feux de brousse ou l'extension des terres agricoles qui permet de préserver cet écosystème. Et c'est vrai que c'est en plus une success story puisque le directeur de cette ONG est maintenant reconnu au niveau international puisqu'il a récemment reçu un prix des Nations Unies, donc du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et ça s'appelle le prix Équateur en 2019.
Alors, autre histoire à succès, celle de l'ONG Essi Congo qui se bat depuis 2009 pour la protection des grands singes. Et nous sommes en ligne justement avec son directeur. Bonjour Guillaume Tati.
Bonjour madame.
Vous êtes le directeur de l'ONG Essi Congo qui se bat pour la protection des grands singes depuis 2009 au Congo-Brazzaville. Alors plus précisément dans la forêt du Mayombe qui est un refuge pour les gorilles et les chimpanzés menacés d'extinction. Expliquez-nous un peu le corridor écologique que représente cette forêt pour ces grands singes.
Merci madame pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir parler de nos activités et surtout des enjeux environnementaux qui traversent ce massif forestier qui est d'une importance capitale pour la planète parce que la forêt du Mayombe constitue la limite sud-ouest des forêts du bassin du Congo et c'est un bras financier qui traverse 4 pays en un seul tenant, notamment le Gabon, le Congo, la RDC et l'Angola par le Cabinda. Ce massif forestier, dans sa partie congolaise, tout au moins, a une superficie de 2 millions d'hectares et regorge une biodiversité exceptionnelle. Malheureusement, comme vous savez, dans toute problématique de conservation d'espèces animales, la forêt du Mayombe n'échappe pas à cette problématique de pression due notamment au braconnage par la chasse illicite d'une grande diversité d'espèces animales et malheureusement y compris des espèces rares que sont le gorille, chimpanzé, l'éléphant et bien d'autres. Il y a aussi une problématique d'exploitation minière et forestière qui non seulement détruit les écosystèmes mais détruit plus spécifiquement la forêt qui constitue, on va dire, pour parler comme des enfants, la maison de ces espèces qui sont aujourd'hui menacées de disparition totale. Il y a aussi d'autres problématiques telles que l'exploitation du bois énergie. Et donc, notre travail à nous, c'est de sauvegarder ce patrimoine qui rend des services écosystémiques d'abord aux communautés qui sont victimes de la disparition à la fois de la faune et de la forêt, mais aussi qui constitue une base de l'économie qui est importante pour le pays, pour l'Afrique et pour le monde.
Alors comment est-ce que vous travaillez avec les populations locales, en quelques mots, pour protéger les grands singes ?
Nous travaillons concrètement avec les populations par 3 types d'actions. Nous menons de la recherche scientifique dans ces forêts, collaboration avec les populations qui connaissent très très bien ces forêts-là et les animaux qui y sont. Nous travaillons en sensibilisant ces populations, notamment sur la nécessité de protéger l'environnement. Et nous travaillons aussi avec les populations en trouvant des alternatives au braconnage, notamment par les activités génératrices de revenus, que ce soit par la valorisation de tous les atouts agricoles ou encore qui se trouvent dans leur forêt, pour les aider à améliorer leurs revenus et donc leurs conditions de vie.
C'est le programme des petites initiatives qui vous a permis de démarrer, de monter sur la première marche et de lancer votre activité ?
Oui, le PPI a été, disons, le premier partenaire international qui a cru en nous en 2012 et qui nous a donné le premier financement international qui était de l'ordre de 6 000 euros. On était tout petits Et grâce à ce financement, nous avons démarré les activités de conservation, ce qui nous a permis aujourd'hui, 8 ans après, de devenir une référence au pays. Donc au Congo, nous sommes devenus une référence de conservation en étant un acteur majeur sur la biodiversité et même dans la sous-région, puisque grâce à notre trajectoire qui s'est très bien consolidée grâce aux différents soutiens financiers du PPI au fil du temps, nous avons aujourd'hui été en position d'être un des fondateurs du réseau Alliance pour la conservation des grands singes en Afrique centrale.
Merci beaucoup, Guillaume Tati.
Merci beaucoup, madame. Je vous en prie.
Constance Corbier-Bartot, je rappelle que vous êtes en charge de la biodiversité au Fonds français pour l'environnement mondial. On entend à travers ce témoignage de Guillaume Tati que ces 6 000 euros qui leur ont permis de démarrer, d'exister sur la scène internationale, finalement, c'est une petite somme. Souvent, les ONG, la société civile nous écrit, par exemple, dans cette émission, en disant « j'ai des idées, j'ai envie de faire des choses, mais je n'ai pas accès à des financements, soit c'est trop gros ». Soit c'est rien du tout. Alors justement, la spécificité du PPI, c'est que ça peut être petit.
Oui, tout à fait. Non seulement ça peut être petit, mais ça peut être totalement à 100% efficace par rapport à la perte en ligne qu'on peut avoir sur des financements plus importants, mais gérés à distance. Moi, je compare toujours un petit peu le PPI comme de la haute couture par rapport au prêt-à-porter. C'est-à-dire qu'on a le comité français UICN, on a les coordinateurs régionaux, on a une équipe qui accompagne, qui coach d'une certaine façon ces nouvelles ONG. Il y a peu de programmes, en effet, qui sont capables d'appuyer de façon fine et pas avec beaucoup d'argent, mais tout en suivant jusqu'au dernier euro l'utilisation de cet argent, l'appui à ces ONG. Je tiens juste à souligner qu'après 14 ans, l'évaluation indépendante qui vient d'être réalisée pour le PPI 5 souligne que face à la dégradation de la biodiversité en Afrique de l'Ouest et dans une moindre mesure en Afrique centrale qui continue, et face à la faiblesse structurelle des États dans ces pays, accompagner la société civile reste prioritaire et reste très pertinent pour continuer à œuvrer en faveur de l'environnement et de la préservation du vivant et des populations qui en dépendent dans ces coins-là. Donc, on reste, nous, très en faveur du soutien du PPI.
Voilà une bonne nouvelle. Merci à tous les deux, Paul Estève et Constance Corbier-Bartot, d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.